La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Nous sommes Julie et Léna, salariées d'Impact.
Dans chaque émission, nous vous emmenons à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyennes et citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le monde agricole plus durable. Ce nouveau numéro de La Main à la Pâte. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Pierre Auvray, salariée de l'ADR 37, pour parler du rapport au travail. L'ADR 37, ça veut dire Association pour le développement de l'emploi agricole et rural. Ce sont des associations qui existent partout en France pour travailler à l'installation et à la transmission des fermes. Marie-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les grandes missions de l'ADR ?
L'ADR a été créé donc il y a une quinzaine d'années et c'est dans ses missions, c'est vraiment accueillir des personnes qui ont envie, dans le cadre de leur reconversion professionnelle, de devenir agriculteur, agricultrice. Donc on a une mission d'accompagnement à travers la formation, à travers l'accueil, à travers les conseils. Voilà, donc on accueille à peu près une cinquantaine de personnes par an et on va leur proposer selon leur situation différentes modalités d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment une grosse part de notre travail. Bien sûr, on accueille aussi les gens qui sont à l'orée de leur retraite et qui pensent à peut-être transmettre leur ferme quand ils n'ont plus pas d'enfants qui reprennent. C'est souvent le cas parce que lorsqu'ils ont des enfants, ça se fait peut-être plus simplement, en tout cas en se posant moins de questions, et donc ils viennent pas nous voir à ce moment-là. Mais pour les gens qui veulent accueillir des personnes qui ne sont pas issues de la famille, eh bien ils souhaitent nous rencontrer pour voir si c'est possible de trouver des gens qui reprendraient leur ferme, et nous on accompagne donc ces personnes à l'orée de leur retraite pendant plusieurs années. Voilà. Et puis on a une autre mission aussi, c'est lorsque les personnes sont agriculteurs, agricultrices dans leur vie au quotidien, et bien elles ont envie de développer telle ou telle spécificité pour la commercialisation, pour l'organisation du travail en commun. Donc plein de choses sur lesquelles on peut être en appui. Donc moi j'ai deux collègues avec moi et on est au total à travers Impact entre 5 et 10 personnes à travailler sur ces questions d'installation en agriculture.
Et donc toi, tu es salarié de l'ADR 37 depuis un moment.
Ah oui, c'est ça, voilà, je suis salarié depuis, je crois, 14 ans. Je suis arrivée en 2010.
Comment on peut définir ton poste à l'ADR 37 ?
Donc moi, je vais être vraiment dans la phase qui se situe, j'appelle ça la pré-installation, c'est-à-dire que les gens ont déjà fait du travail de réflexion, sont plus au stade de la découverte totale du métier. Ils ont déjà expérimenté, ils sont allés en stage. Pour la plupart, ils ont déjà passé une formation qualifiante qui leur permet d'avoir des aides à l'installation, qu'on appelle le BPREA. Et donc, ils viennent, je les accompagne au moment où vraiment ils sont prêts pour s'installer. Et ils cherchent soit du foncier, soit ils cherchent un cédant prêt à transmettre sa ferme. Donc moi, je vais les accompagner pour cette rencontre. Voilà, pour cette rencontre. Et puis, je les accompagne quand même pour le dimensionnement, même avant la rencontre, c'est le dimensionnement, c'est-à-dire le volume. C'est question de volume. Combien pour sur quelle grandeur de surface, pour quel chiffre d'affaires, enfin tout ce qui est volume. Et ça, on le travaille beaucoup dans le cadre du stage paysan créatif. Donc ça, c'est une formation que je fais depuis 7 ans aussi. Et voilà, moi j'interviens essentiellement dans le cadre du stage paysan créatif et dans le cadre de la rencontre avec les cédants.
On l'a dit en introduction, on va parler aujourd'hui du rapport au travail. Qu'est-ce que ça t'évoque dans le milieu agricole ?
Ça m'évoque effectivement deux façons de penser vraiment très distinctes entre les jeunes qu'on reçoit et les personnes qui transmettent leur ferme actuellement. Les jeunes qui reçoivent, ou non, je vais plutôt commencer par les personnes qui cèdent, donc qui ont entre 60 et 70 ans, voire un peu plus. C'est facile pour moi d'y penser parce que c'est la génération de mes parents aussi, et que je les ai toujours entendus dire ça. Et que pour eux, le travail, c'est une espèce de fierté. On est fier de travailler. Au contraire, on n'est pas du tout fier de ne pas travailler. Et donc, le travail, c'est bien, et en plus, le beau travail, c'est encore mieux. Et dans le beau travail, en fait, il y a le travail dur. D'ailleurs, les travaux de force, il y avait des concours. Des concours de travail. Au Pays Basque, il y a des concours de force, de portage, et c'était souvent les agriculteurs qui allaient, les bûcherons. Et chez nous, il y a des concours de labour. Alors, c'est aussi. Il faut que ça soit droit, il faut que ce soit propre. Il faut qu'on. Il y a même un terme pour dire ça, ça s'appelle harquigner. Je sais pas si. Voilà. C'est-à-dire travailler dur. C'est méritant, quoi. Il faut être méritant. Et finalement, le pire de tout, ce serait de faire du farniente. De se reposer, là, ma grand-mère se cachait derrière un arbre, s'asseyait sur une chaise lorsqu'elle arrachait l'herbe dans son jardin. Elle était fatiguée à un moment donné, mais elle voulait pas que les gens qui passaient sur la route voyaient qu'elle se reposait. Donc, elle s'asseyait sur la chaise derrière un arbre. Pourquoi ? Pour se cacher. Voilà, donc ce rapport au travail, il est vraiment particulier. Et bien sûr, il y a aussi le fait que finalement, on ne parlait pas de vacances puisque on disait que la vie, c'était le travail.
Non, moi, j'avais prévu justement de te demander parce que moi, c'est aussi des impressions que je peux avoir dans le réseau agricole, le fait qu'on valorise beaucoup le dévouement à son activité. L'engagement, l'effort.
C'est ça.
Et on méprise totalement l'inactivité parce qu'on l'associe à de la paresse. Mais pourquoi ? D'où ça vient ?
Oh, bah alors là, j'en sais rien, Julie. D'où ça vient ? D'où ça vient ? Faudrait leur demander à eux, faudrait faire un travail pour eux. Pourquoi ? Alors, sans doute, il y a des racines là-dedans qui sont liées à notre culture judéo-chrétienne. Sans doute, il y a des racines qui sont liées à ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, les moments difficiles qu'ils ont vécu après-guerre, même pendant la guerre. Hein, voilà, donc c'est des enfants de la guerre quand même, hein, les gens qui ont 80 ans aujourd'hui. Hein. Donc oui, ils ont vécu des choses difficiles. Et puis il y a eu le travail, voilà, c'est quelque chose qui était très, très, très bien vu aussi dans la culture rurale, chrétienne, chez nous, ça c'est sûr.
Donc le travail agricole prend beaucoup de temps dans la semaine, c'est régulier. Moi, j'entends souvent des personnes qui travaillent plus de 70 heures. Mm-hmm. Est-ce que ça diffère en fonction des productions ?
Oui, sans doute. Moi, j'aurais bien voulu revenir sur le rapport au travail des jeunes, parce qu'on avait, on était parti sur le, voilà. Donc, les jeunes, de leur côté, aujourd'hui, quand ils viennent, ils ont, pour la plupart, déjà vécu un moment de travail salarié. Dans des professions où ils ont beaucoup travaillé aussi, hein, où il y a beaucoup de pression psychologique, où ils ont des responsabilités, où ils doivent mener des équipes. Et surtout là où c'est terrible pour eux, c'est que c'est dans des secteurs où ils ne se retrouvent pas du tout, où ils ne voient pas, le sens de ce qu'ils font. Alors ça va du travail à la centrale nucléaire d'Avoine, à des fabricants de voitures à Paris et j'en passe. Enfin, il y a de tout, hein, mais c'est quand même des gens qui sont plutôt qualifiés et qui ont beaucoup donné dans ces secteurs-là. Où ils ont pas, où ils trouvent plus de sens, en tout cas, dans ce qu'ils font. Donc, quand ils reviennent sur cette idée de pourquoi pas devenir agriculteur, paysan, paysanne, c'est avant tout pour faire quelque chose qui pourront raconter à leurs enfants et qui aura du sens, ils seront fiers. Pour le moment, ils ne sont pas très très fiers de ce qu'ils font. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne sont pas très fiers de ce qu'ils font. Je dirais la majorité des personnes qui viennent nous voir. Et donc, ils arrivent et effectivement, ils ne connaissent pas du tout ce métier-là. Donc, c'est un choc très, très brutal. Mais petit à petit, ils vont l'appréhender et ils vont l'apprivoiser. Mais évidemment que s'ils quittent leur travail, c'est pas pour redevenir des bêtes de somme. En tout cas, pas travailler tout le temps. S'ils ont envie de prendre un peu de hauteur, c'est aussi pour cette question d'être attentif à leurs proches et notamment à leurs enfants. Ils arrivent souvent quand les enfants ont entre 7 et 10 ans. Ouais, ils commencent même un peu plus petits, mais voilà, et ils ont envie de passer du temps avec leurs enfants. Il y a évidemment le rapport de qui s'occupe des enfants aussi. Aujourd'hui, les pères ont envie de s'occuper de leurs enfants, et donc ils n'ont pas envie de laisser tout ça, et ils veulent être présents dans la famille, faire des activités, voilà. Donc, évidemment qu'ils ne vont pas vouloir travailler toujours. Ils voudront travailler, mais ce ne sera pas pareil. Donc, ce rapport au travail est différent. Ils voudront travailler pour trouver du sens, et non pas pour être fiers de travailler pour travailler.
Tu le disais, les personnes qui s'installent aujourd'hui sont plus en recherche de temps pour avoir accès aux loisirs, pour s'occuper de leur famille, pour partir en vacances. Donc c'est une évolution un peu générale dont tu nous parles. Mais dans quelle proportion ? Parce que, par exemple, dans le film La ferme des Bertrands de Gilles Perret, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, on entend les filles de la famille devenues adultes confier que dans les années 90, donc elles devaient se faire à manger, se coucher seules le soir, donc quand elles étaient enfants, et aujourd'hui elles se réjouissent que finalement le travail s'organise un peu différemment. Il y a un dimanche sur deux qui est pris en repos, et une semaine de vacances dans l'année. Du coup, finalement, dans quelle proportion c'est réaliste aussi de garder du temps pour ses loisirs ?
Donc là, c'est très variable, hein, selon les productions aussi, et selon les personnes, et selon l'organisation de l'entreprise. Peut-être on y reviendra, mais le levier principal, c'est de ne plus être tout seul, évidemment. En tout cas, on va sortir du schéma familial, notamment pour tout ce qui est activité d'élevage. Donc, oui, sur une activité d'élevage aujourd'hui, si on est tout seul, c'est si on prend une semaine de vacances et un week-end sur deux, on sait même pas, je sais, il faut avoir un salarié, enfin, c'est pas possible. Il faut être constamment, il faut être présent. Donc voilà, donc il y a des leviers possibles. Mais peut-être avant de. Je réfléchissais sur le fait, pourquoi les jeunes, enfin, leur rapport à travail et pourquoi ils sont revenus. Il y avait l'histoire du sens, l'histoire de trouver du sens au travail, mais il y a l'histoire aussi de prendre soin. Et quand je disais prendre soin des enfants, mais c'est aussi prendre soin de la terre. Donc il y a tout ce côté environnemental qui est présent chez les jeunes qui reviennent, les jeunes ou moins jeunes, et ça, c'est faire attention, une préoccupation immense sur l'environnement, quoi, sur la terre, et évidemment que ils vont être attentifs à comment ça fonctionne, à réfléchir beaucoup à l'agroécologie, à l'agronomie. Ça prend du temps, il faut regarder, il faut observer, plutôt que de travailler fort et dur, ils vont être beaucoup dans l'observation aussi. Donc c'est quelque chose qui diffère aussi de la notion de travail, elle va prendre en compte du temps d'observation. qui existait aussi, hein, je pense que, mais qui me semble plus importante aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ta question, c'était sur le...
Dans quelle proportion ?
Oui, je disais, c'est vraiment variable. Je pourrais pas dire aujourd'hui. J'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment deux types, hein, d'organisation. Il y a les gens qui sont seuls et qui, pour qui c'est vraiment très très dur. Il y a les gens qui sont en couple et qui peuvent, enfin, pour qui ça peut le faire, hein, si on a des exemples pour qui ça fonctionne, et qui ont des enfants, et bon, ça va. Et pour certains où c'est un peu plus difficile, avec bon, éventuellement l'embauche d'un salarié, mais à ce moment-là, ben, ça veut dire moins de revenus pour la famille. Donc voilà, on est quand même sur des petites unités, souvent en maraîchage, qui sont quand même limitées au niveau de, je dirais, de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir être libre et de diminuer vraiment les horaires comme on aurait imaginé. Et effectivement, il y a beaucoup de travail.
J'aimerais revenir sur le temps passé au travail dans la semaine. Est-ce que c'est déjà arrivé, Marie-Pierre, qu'on vienne te rencontrer et qu'on te dise ben, « Moi, j'aimerais devenir agriculteur, agricultrice, mais j'aimerais ne pas y passer plus de 35 heures. » Est-ce que...
Oui.
Comment tu réagis ?
Je réagis pas. Non, comment je réagis ? En tout cas, oui, si ça arrive, évidemment. Enfin, quand même, ils sont un peu conscients. Hein. Bon, allez, 40 heures, hein, mais pas plus, hein. Et oui, et ben de toute façon, il y a rien à dire. Quand on a ces projets dans la tête, dans le cœur, il y a rien à dire. Sinon, d'être au proche des gens à leur côté et de leur permettre d'aller expérimenter, c'est seulement ça qui fera en sorte qu'on revient sur la réalité. Mais faut donc nous, notre gros travail, c'est de permettre l'immersion, à quel que soit le stade de la réflexion. On va proposer aux gens d'aller dans les fermes, d'aller passer une semaine ou deux jours par semaine pendant 6 mois, voire 3 jours par semaine pendant 3 mois. Enfin, on a des modalités pour faire des conventions de stage qui permettent aux jeunes d'aller vraiment sur le terrain. C'est ça, c'est la seule chose. C'est ça et c'est les temps collectifs. Donc les temps collectifs, on va regrouper ensemble des jeunes qui ont ce rêve, mais où nous, on va leur permettre d'écrire une nouvelle histoire et de décrire ce qu'ils ont vécu en formation, en stage, où les gens qu'ils ont rencontrés, ce qui a été compliqué pour eux, et d'être avec d'autres pour le dire, d'autres qui vont être... très à l'écoute et dans les mêmes situations. Donc ça, c'est extrêmement formateur. Et petit à petit, non seulement ça va les rassurer, ils ne sont pas les seuls à souffrir, parce que c'est le corps qui souffre aussi. Hein. Ils ont, là, on parlait des anciens, tout petits, ils étaient déjà, ils avaient le corps qui était formé pour travailler dur. Et donc, les efforts... c'était moins douloureux pour eux, même si après je peux vous dire que au moment de la retraite et voilà les sacs de 50 kilos qu'ils ont portés pour monter le blé au grenier, ils le sentent passer, hein, les articulations, tout ça, mais en tout cas au moment de s'installer, les jeunes qui arrivent, eux, ils n'ont pas du tout le corps qui est fait pour ça. Et donc, c'est douloureux. Alors, le fait qu'ils le fassent, qu'ils se rencontrent, qu'ils soient ensemble pour en parler, avec nous qui sommes là pour faire émerger les craintes, les appréhensions, mais aussi les envies, les souhaits, les rêves, et ben tout ça, c'est ça notre boulot, hein, c'est d'être à côté, voilà. Mais de leur permettre d'expérimenter, parce que nous, on ne fera pas à leur place. C'est eux qui vont faire, donc il faut qu'ils expérimentent un maximum. Donc en tant que stagiaire dans un premier temps, en tant que salarié après, c'est très très bien. En tant que entrepreneur à l'essai à travers une couveuse, un espace test. Tout ça, ce sont des modalités qui vont permettre aux personnes d'être au plus près. Ils ne sauront jamais à quoi ils s'attendent, mais d'être quand même un peu plus informés de ce qui va se passer. Voilà, puis après, je dirais que le fait de faire toute cette formation, tous ces temps collectifs en groupe, ça crée également quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est le réseau. Au même titre qu'ils n'ont pas la force physique, parce que ils l'ont pas appris quand ils étaient petits et ados, eh bien, ils n'ont pas appris non plus le réseau de la campagne, la clé des champs. Voilà. Et ben pour l'apprendre, la clé des champs, c'est pas facile, quoi. Il faut trouver la bonne serrure. Il faut trouver. C'est très très dur. On sait pas, on n'ose pas aller voir les gens. Et puis on croit aussi qu'on sait tout faire quand on arrive. Hein. On sait pas. Donc on croit qu'on sait tout faire. On va pas lui demander des conseils, ça va pas. Puis l'autre il traite en plus, donc on va pas lui demander. Voilà. Donc avec beaucoup sans grande modestie au démarrage. Et voilà, nous, on va faire tout le contraire. C'est faire croiser les regards, faire croiser les gens. Et la personne d'à côté, le voisin, il fait pas tout à fait comme moi j'aurais imaginé faire. Mais c'est pas grave. Il est là, c'est peut-être important d'aller le voir et de travailler avec lui. Parce que ça va être essentiel. Tout ce qui va faciliter, ça va être le réseau. D'abord travailler en groupe, en formation, apprendre à sortir de son petite imagination individuelle, mais partager, et puis ensuite quand on va être sur le terrain, fermer son clapet et accueillir la différence et les voisins qui sont là. Et ça, ça prend un peu de temps, mais c'est ce qui permet après d'asseoir et de pouvoir collaborer quand il faudra aller chercher le tracteur qui sera qui aura perdu la benne 3 points, je ne sais pas où, ou la fourche qui sera enfoncée, je ne sais pas où. Enfin voilà, donc tout ça, à un moment donné, les voisins, c'est immensément important en agriculture, et donc c'est aussi ça qu'on essaie d'infuser un peu dans notre accompagnement.
Là, on vient de parler des voisins. Quand on est agriculteur, agricultrice, on habite aussi parfois, voire souvent sur place. Est-ce que c'est facile de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle dans ces cas-là ?
Quand je parlais des plus anciens, la question se posait absolument pas, puisque la vie professionnelle était complètement liée à la vie personnelle. Aujourd'hui, où il y a cette envie de faire une distinction et de pouvoir avoir des moments privilégiés avec sa famille. Si le conjoint, la conjointe bosse à l'extérieur, pouvoir parler d'autre chose que de la ferme. Effectivement, c'est important de ménager des temps. Est-ce que c'est facile ? Il y a des personnes qui ont fait carrément le choix de ne pas habiter sur place. Alors c'est possible sur certaines productions. Je connais un couple dont la femme travaille sur place, sur une petite production, et son conjoint, son compagnon, travaille à 3 km sur une autre production avec d'autres personnes. Et ça se passe très bien. Donc, et là, il y a vraiment une coupure, parce que le soir, ils retrouvent leurs enfants et ils font d'autres activités. C'est possible. Après, sur une production d'élevage, par exemple, évidemment que là, il faut être sur place et que c'est plus contraignant. Mais là, on arrive vraiment sur le sujet du collectif, pour moi, qui est vraiment le... On peut guère imaginer autrement aujourd'hui. Si on veut faire de l'élevage, pouvoir imaginer travailler à deux minimum, mais à plusieurs, pour pouvoir se relayer, c'est quand même... C'est comme ça qu'on peut l'envisager aujourd'hui. En tout cas, les jeunes qui arrivent, déjà l'élevage pour eux, ça paraît une montagne, parce que c'est quelque chose qui est très très éloigné de ce qu'ils peuvent connaître. Ils en ont très très peur. Mais si en plus il y a les contraintes d'être au travail week-end, soirée, vacances. Donc là, ils peuvent l'envisager à condition qu'il y ait la possibilité d'être en collectif.
J'ai une dernière question pour conclure cette émission. Est-ce que tu aurais justement des conseils pour bien vivre son rapport au travail quand on est agriculteur ou agricultrice?
Ok, vivre son rapport au travail, pour moi c'est bien plus large que ça. Et d'abord, quand j'étais agricultrice, je suis pas sûre de l'avoir très bien vécu, mais enfin encore que, plutôt bien. Mais le rapport au travail, c'est le rapport au travail tout court. C'est que moi, effectivement, j'ai pris beaucoup de hauteur par rapport à ça et j'ai pas non plus envie même si j'y passe beaucoup de temps, mais. J'ai envie de prendre de la hauteur aussi et de faire autre chose et de voir autre chose. Donc vivre bien son travail, eh ben, c'est aussi c'est se permettre de regarder ailleurs, d'aller voir ailleurs. Mais sans doute pour des personnes, ça conviendra pas. C'est moi aujourd'hui, je dirais, prendre un peu de recul. Mais je suis pas sûre qu'il y ait une bonne façon de prendre. C'est quoi la question? Le lien au le rapport au travail, quand vivre le rapport au travail? Mais est-ce qu'on doit bien vivre son rapport au travail? J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre.
Tu me parlais aussi de la dimension économique, donc
Oui.
peut-être de
Ah.
réfléchir à ça.
Donc le rapport au travail, bien vivre son rapport au travail. Sans doute il y a 10 000 façons, hein. Prendre du temps pour soi. Chanter, faire des activités physiques, partir de temps en temps en vacances et tout ça. Mais tout ça n'est possible que si la ferme, elle roule bien économiquement parlant, si ça va bien. Et à ce moment-là, on peut commencer à prendre un peu de distance et peut-être demander le service de remplacement, demander éventuellement prendre un salarié, voilà. Donc pour moi, une des conditions de bien vivre son rapport au travail, c'est surtout de savoir où on met le travail, comment on... c'est tellement dur. Le travail, c'est très dur. Mais en agriculture, c'est d'autant plus difficile. 1 euro, c'est tellement dur à gagner. Alors, il faut savoir vraiment où on met les forces. Pouvoir savoir combien ça rapporte de passer 1 heure au marché. C'est vraiment un exemple, hein, mais voilà, savoir où on passe le temps et combien ça rapporte, parce qu'autrement, on y passe effectivement tout son temps et on s'épuise. Et voilà, donc, et puis prendre des vacances, évidemment.
Donc tu vois un troisième levier?
Oui, je vois le troisième levier concernant le fait de pouvoir diminuer l'impact du travail, la difficulté, c'est aussi de militer pour avoir des aides à l'installation qui soient fléchées sur des outils de travail pour diminuer les efforts physiques. Je pense surtout, enfin, il y a une aide qui s'appelle... Peu importe son aide, c'est pour les investissements pour des chariots élévateurs. Ou, je pense surtout, ça m'a marqué beaucoup, c'est les histoires de portes d'essert qu'on peut automatiser. En tout cas, on peut les lever et c'est un enrouleur et on peut ouvrir et fermer sans trop produire d'efforts. Ça paraît rien, mais une porte de serre, c'est lourd, quoi. Et quand on fait ça tous les jours. Donc voilà, s'il y a des choses à regarder, c'est vraiment sur les aides à l'investissement, faire en sorte que ces aides puissent permettre de diminuer les efforts au travail. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire d'efforts, mais au moins que ce soit moins fatigant de faire des choses qui reviennent tous les jours.
Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Marie-Pierre, je te remercie beaucoup
Je
d'avoir
vous en
répondu à mes
prie.
questions.
Merci.
Et à bientôt pour un nouveau numéro de
Ah
La main à
bon.
la pâte.
C'était La main à la pâte. Un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.